Les Mille et Une Nuits, tome 8, chapitre 5. Histoire du roi Adzabart ou des dix vizirs. Un des anciens rois de l'Inde, nommé Adzabart, avait fait des grandes conquêtes et étendu fort loin sa domination. Il veillait avec soin sur toutes les parties de son empire, entretenait de nombreuses armées et rendait exactement la justice à ses sujets. Malgré son activité et ses talents, l'étendue de ses états ne lui permettant pas de tout voir et de tout examiner par lui-même, il avait choisi 10 vizirs sur lesquels il se débarrassait du plus grand nombre des affaires. Mais, toujours jaloux de régner lui-même, il décidait seul, dans les circonstances les plus importantes, après avoir pris toutefois l'avis de ses vizirs. Avec une telle conduite, Adzabart pouvait se flatter de jouir d'une prospérité durable si, séduit et entraîné par l'amour, il n'eût abusé de son autorité et manqué d'égard pour un de ses vizirs. Un jour qu'Adzabart était à la chasse, accompagné d'une suite nombreuse, il aperçut un esclave noir à cheval qui conduisait par la bride une mule richement harnachée. Cette mule portait une espèce de litière recouverte d'une étoffe de brocart d'or, parsemée de perles et de diamants. Une troupe de cavaliers, dont l'équipage le plus leste et le plus brillant, accompagnait la litière. Adzabart se sépara des personnes de sa suite, et, s'étant avancé vers les cavaliers, leur demanda à qui appartenait cette litière et quelle était la personne qu'elle renfermait. L'esclave noir répondit, sans savoir qu'il parlait au roi lui-même, que la litière appartenait à Isfahend, vizir du roi, et qu'elle renfermait sa fille, promise en mariage au roi Zadjar. La princesse, entendant cette conversation, fut curieuse de voir la personne qui parlait à l'esclave et entr'ouvrit le rideau de sa litière. Adzabart l'aperçut, fut frappé de l'éclat de ses charmes et en devint aussitôt amoureux. « Fais retourner la mule, dit-il à l'esclave noir, et reviens sur tes pas. Je suis le roi Adzabart, et je veux devenir l'époux de cette jeune beauté. Isfahend, son père, est un de mes vizirs et ne peut manquer d'être flatté de l'honneur que je lui fais en donnant ma main à sa fille. » Sire, reprit l'esclave étonné, permettez-moi que j'informe mon maître de votre dessein, afin qu'il s'empresse de donner son consentement à une alliance aussi glorieuse et à laquelle il doit si peu s'attendre. Ce serait une chose indigne de vous et injurieuse pour lui si vous épousiez sa fille sans qu'il en fût instruit. Je n'ai pas, dit le roi, le temps d'attendre que tu ailles trouver Isfahend et que tu sois ici de retour. Il ne peut y avoir en ceci rien d'injurieux pour mon vizir, dès que c'est moi qui épouse sa fille. Sire, ajouta l'esclave, permettez-moi d'observer à votre majesté que les choses faites avec tant de promptitude ou ne sont pas de longue durée ou ne procurent pas un plaisir pur et solide. Puisque rien ne peut s'opposer à vos vœux, ne vous exposez pas aux suites fâcheuses qu'entraîne quelquefois la précipitation et n'affligez pas mon maître en le comblant d'honneur. Je connais sa tendresse pour sa fille et je suis sûr qu'il sera vivement affecté de ne pas vous l'avoir donnée lui-même. Isfahend, interrompit le roi, est mon mamelouk et un de mes esclaves. Je m'embarrasse fort peu qu'il soit fâché ou content. » En parlant ainsi, le roi saisit lui-même la bride de la mule, fit conduire dans son palais la belle Beherjour, c'était le nom de la fille d'Isfahend, et l'épousa le jour même. L'esclave noir et les cavaliers étant retournés près du vizir leur maître, l'esclave se jeta à ses pieds et lui dit en pleurant, « Monseigneur, depuis bien des années, vous servez le roi Adzabart avec tout le zèle dont vous êtes capable, et jamais vous n'avez rien fait de contraire à ses intérêts et à ceux de l'État. Mais vous avez travaillé inutilement. Le roi n'a pour vous aucune estime, ni aucun égard pour vos longs et fidèles services. » Que signifie ce discours, dit Isfahend, et quelle preuve as-tu que le roi ne fasse aucun cas de ma personne et de mes services? L'esclave fit alors à son maître le récit de ce qui venait d'arriver. Le vizir, en apprenant cette nouvelle, se sentit enflammé de colère et résolut de se venger de l'affront qu'il venait de recevoir. Il assembla un grand nombre de gens de guerre et leur dit « Le roi Adzabart ne se contente plus des femmes qui composent son sérail. Il en usera bientôt envers vous comme il vient d'en user envers moi et s'emparera de ce que nous avons de plus cher. Il ne nous reste d'autre parti à prendre que de quitter la cour et de nous retirer dans des lieux où notre honneur soit en sûreté. » Isfahend, pour empêcher que le roi ne soupçonnât rien de son dessein, lui écrivit en même temps une lettre conçue en ces termes. « Je suis un de vos mamelouks, un de vos esclaves. Ma fille elle-même était à vous. Vous pouviez en disposer en maître. Que le Très-Haut conserve vos jours et vous accorde toutes sortes de plaisirs et de satisfactions. J'ai toujours été prête à vous servir, à défendre les provinces de votre empire et à repousser vos ennemis. Je vais désormais redoubler de zèle et d'ardeur. Vos intérêts semblent être devenus les miens depuis que ma fille est devenue votre épouse. » Cette lettre était accompagnée d'un présent considérable. Le roi Adzabart fut très content de la lettre et du présent, et ne songea dès ce moment qu'à se livrer au plaisir et à la bonne chère. Le grand vizir d'Adzabart, plus attentif à ce qui se passait, vint un jour l'informer qu'Isfahend était vivement piqué de la manière dont s'était fait le mariage de sa fille et travaillait secrètement à se soulever contre lui. Le roi, pour toute réponse, lui fit lire la lettre d'Isfahend. Le grand vizir eut beau représenter qu'il ne fallait pas s'en rapporter à cette lettre et que la soumission qu'elle renfermait était aussi fausse que la satisfaction qui faisait paraître Isfahend, Adzabart ne fit aucune attention à ces représentations et continua de se livrer aux plaisirs et aux amusements de toute espèce. Cependant, Isfahend écrivit sans perdre de temps à tous les émirs, leur raconta l'affront que lui avait fait le roi en s'emparant par force de sa fille, et leur fit appréhender qu'il ne se portât envers eux à des violences encore plus grandes. Les lettres du vizir étant parvenues dans toutes les provinces, les émirs se rassemblèrent auprès de lui, et ayant entendu de sa bouche le récit de ce qui était arrivé à sa fille, résolurent de le venger et convinrent de se défaire du roi. Aussitôt, ils montèrent à cheval et firent avancer leurs troupes vers la capitale avec tant de secret et de promptitude qu'ils étaient maîtres de tout le pays lorsque le roi apprit leur arrivée. Adzabart, ne pouvant opposer de résistance, demanda à sa nouvelle épouse quel parti elle voulait prendre. « Celui que vous jugerez convenable, répondit-elle. Le roi fit alors amener les deux meilleurs chevaux de son écurie. Il monta sur l'un et la reine sur l'autre. Ils emportèrent avec eux autant d'heures qu'ils purent et s'enfuirent pendant la nuit du côté de Kerman, abandonnant leur capitale à Isfahend, qui entra dans la ville et s'en empara. La reine, qui était enceinte, ne fut pas longtemps sans ressentir les douleurs de l'enfantement. C'était le soir, et ils se trouvaient alors près d'une montagne au pied de laquelle coulait une fontaine. Ils descendirent de cheval. La reine mit au monde un enfant aussi beau que la lune dans son plein, détacha un de ses vêtements dont l'étoffe était de soie brodée d'or, en enveloppa l'enfant et lui présenta son sein. Ils passèrent la nuit dans cet endroit. Le lendemain matin, le roi dit à son épouse « Cet enfant, qui devait mettre le comble à mon bonheur, augmente aujourd'hui l'horreur de la position critique où nous nous trouvons. Nous ne pouvons ni rester ici, ni l'emmener avec nous. Forcés de l'abandonner à la Providence, prions Dieu qu'il envoie quelqu'un qui en prenne soin. » À ces mots, ils versèrent l'un et l'autre un torrent de larmes, laissèrent l'enfant à côté de la fontaine, après avoir mis près de sa tête une bourse qui contenait 1000 pièces d'or, remontèrent à cheval et continuèrent à fuir. Dieu permit que des voleurs qui avaient attaqué une caravane près de cette montagne et qui s'étaient emparés de tout le bagage des voyageurs vinrent dans cet endroit pour partager entre eux le butin. Ayant aperçu l'étoffe de soie, ils s'approchèrent, trouvèrent l'enfant qui était emmailloté dedans, et tout auprès, la bourse remplie d'or. « Grand Dieu ! S'écria l'un d'eux saisi d'étonnement. Comment cet enfant se trouve-t-il ici ? Quel crime, quelle barbarie l'a fait ainsi abandonner ?» Le chef des voleurs, après avoir partagé l'or à sa troupe, prit l'enfant dans ses bras et résolut de l'élever comme son fils. Il le nourrit lui-même de lait et de dattes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à l'endroit où il faisait sa demeure, et là, il lui donna une nourrice. Le roi Adzabart et la reine s'éloignaient toujours en faisant le plus de diligence qu'ils pouvaient, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la cour de Perse. Le roi Khosroès les reçut avec les honneurs dus à leur rang, et les fit loger dans un magnifique palais. Lorsqu'il eut appris le malheur qui leur était arrivé, il leur donna une grande armée et des sommes d'argent considérables. Après être restés quelques jours à la cour de Perse pour témoigner au roi leur reconnaissance et se remettre de leur fatigue, Adzabart et son épouse prirent le chemin de leur état. Adzabart marchait à la tête de l'armée. Isfahend vint à sa rencontre. On se battit de part et d'autre avec beaucoup de valeur, et la victoire fut longtemps douteuse. Enfin, l'armée du vizir rebelle fut mise en fuite, et lui-même tué de la main du roi. Adalbart rentra dans sa capitale et remonta sur le trône de ses aïeux. Dès qu'Adalbart se vit paisible possesseur de son royaume, son premier soin fut d'envoyer à la montagne où il avait été obligé de laisser son fils pour voir si on ne pourrait pas découvrir ce qu'était devenu l'enfant. En vain, on parcourut tout le pays d'alentour, on questionna tous les habitants. Personne n'en put donner aucune nouvelle. Le roi, fort affligé, ne cessait de regretter la perte de son fils. Plusieurs années se passèrent ainsi. Cependant, le prince devenu grand accompagnait les voleurs dans leurs courses et attaquait avec eux les voyageurs. Un jour, ils formèrent le projet de piller une caravane qui devait passer dans le Ségestan. Il y avait parmi ceux qui composaient cette caravane des hommes vaillants et aguerris qui avaient avec eux beaucoup de marchandises précieuses. Ayant entendu dire que le pays était infesté par les brigands, ils se tenaient sur leur garde, marchaient toujours bien armés et envoyaient devant eux des coureurs. Ils furent ainsi avertis de l'approche des voleurs et se préparèrent à les repousser. Les voleurs, qui étaient en petit nombre, furent étonnés de trouver une résistance à laquelle ils ne s'attendaient pas. Plusieurs d'entre eux furent tués. Les autres furent obligés de prendre la fuite. Le jeune prince, après s'être longtemps battu, fut forcé de céder au nombre. Sa jeunesse, son courage, sa bonne mine, intéressaient en sa faveur. On lui laissa la vie et on le mit au nombre des esclaves. La noblesse de son maintien, sa figure, son esprit, excitant de plus en plus la curiosité, on lui demanda qui il était et comment il se trouvait parmi ses voleurs. Le jeune prince ne put répondre autre chose, sinon qu'il était le fils du chef des voleurs. La caravane, continuant sa route, arriva dans la ville où le roi Adalbart faisait sa résidence. Dès qu'il en fut informé, il ordonna qu'on lui présentât les objets les plus rares et les plus curieux pour choisir ce qui lui plairait davantage. On fit porter au palais les étoffes les plus riches, les bijoux les plus précieux, et on y mena aussi quelques esclaves, parmi lesquels était le jeune voleur dont on s'était emparé. Le roi, après avoir tout visité rapidement, arrêta ses yeux sur le jeune homme. Il fut frappé de sa figure et demanda qui il était. Le chef de la caravane lui raconta qu'ils avaient été assaillis dans leur voyage par des brigands, qu'ils s'étaient défendus courageusement, en avaient tué une partie, mis l'autre en fuite, et s'étaient saisis du jeune homme qui était, à ce qu'il disait, fils du chef des brigands. Cette circonstance n'empêcha pas que le jeune esclave ne plût infiniment au roi et qu'il ne voulut l'acquérir. Il le témoigna au chef de la caravane. Celui-ci le pria de l'accepter au nom de tous les voyageurs, ajoutant qu'ils étaient tous ses esclaves et que Dieu n'avait fait vraisemblablement tomber ce jeune homme entre leurs mains que parce qu'il le destinait à sa majesté. Le roi, fort satisfait, congédia la caravane et fit entrer le jeune homme dans son palais. Il n'avait d'abord été frappé que des agréments de sa figure. Il ne tarda pas à s'apercevoir de son esprit, de sa sagacité et de l'étendue de ses connaissances. Il remarqua sa générosité, son désintéressement. Chaque jour, il découvrait en lui de nouveaux talents, autant au-dessus de son âge que de l'origine qu'il lui supposait. Adalbart, enchanté des talents du jeune homme, résolut de les mettre à profit. Il lui confia l'intendance de ses trésors et ordonna que rien n'en sortît à l'avenir sans l'ordre du jeune intendant. Le nouveau ministre s'acquitta de son emploi d'une manière qui devint bientôt avantageuse aux finances du roi. Les vizirs disposaient auparavant à leur gré des trésors de l'État. La fermeté et la vigilance du jeune intendant firent cesser leurs déprédations. Le roi s'aperçut bientôt des heureux effets de ce nouvel ordre de choses. Il s'attacha tellement au jeune homme qu'il le chérissait autant que s'il eût su qu'il était son fils. Il le consultait en tout et ne pouvait souffrir qu'il s'éloignât de lui. Les vizirs, mécontents de la diminution de leur autorité et jaloux de l'attachement du roi pour ce nouveau favori, avaient conçu contre lui une violente jalousie et cherchaient tous les moyens de lui faire perdre les bonnes grâces du roi. Leurs ruses furent inutiles pendant plusieurs années. Enfin, le moment marqué par le destin arriva. Le jeune intendant s'étant un jour trouvé avec d'autres jeunes gens, but plus qu'à son ordinaire et s'enivra. N'ayant pu dans cet état retrouver son appartement, il erra dans le palais et fut poussé par sa malheureuse destinée dans l'appartement des femmes. Une salle magnifique se présenta à lui. C'était celle où le roi avait coutume de coucher avec son épouse. Le jeune homme, peu frappé de la magnificence de l'appartement, de la qualité des bougies qui l'éclairaient, entre, trouve un lit tout dressé, se laisse tomber dessus et cède au sommeil qui l'accable. Des esclaves viennent peu après préparer la collation qu'on avait coutume de servir tous les soirs au roi et à la reine. Elles apportent les sorbets, les confitures, disposent les cassolettes et les parfums. Le jeune homme, dormant profondément, n'entend rien, et les femmes, le voyant de loin, croient que c'est le roi qui repose. Adabart avait donné ce jour-là un grand souper aux principaux seigneurs de la cour. Après le repas, il passa chez sa nouvelle épouse et la conduisit dans l'appartement où tout était préparé pour les recevoir. Le roi vit en entrant un jeune homme étendu sur son lit et reconnut son jeune intendant. Une fureur jalouse s'empara aussitôt de ses sens. « Quelle est cette conduite ? » dit-il à Béherjour en la regardant d'un œil irrité. « Assurément, cet esclave n'a pu s'introduire ici sans votre aveu. »«
Sire, répondit la reine d'un ton assuré, je vous jure que je ne connais pas cet esclave et ne sais par quel hasard il se trouve ici. »
Le roi se croyait trop assuré de l'infidélité de la reine pour croire à la sincérité de ce qu'elle lui disait. Le jeune homme, s'étant réveillé sur ses entrefaites, aperçut le roi, sauta en bas du lit et se jeta à ses pieds. « Traître !» lui dit le roi, transporté de colère. « Tu oses pénétrer dans l'appartement de mes femmes ? Ton audace et ta perfidie ne resteront pas longtemps impunies !» Le roi ordonna aussitôt qu'on enfermât le jeune homme et la reine dans des prisons séparées. Le lendemain, Adzadbart envoya chercher son grand vizir. Il lui raconta l'aventure de la veille, lui témoigna la crainte qu'il avait que la reine ne fût d'intelligence avec le jeune homme, et lui demanda son avis. « Ce jeune homme, répondit malignement le vizir, est le fils d'un voleur. Il se ressent de sa mauvaise origine. Celui qui élève un serpent dans son sein doit s'attendre à en être mordu. Quant à la reine, sa conduite passée, son honnêteté, sa vertu, vous répondent de son innocence. Mais si le roi conserve encore quelques soupçons contre elle, qu'il me permette de l'interroger. Je me flatte d'éclaircir cette affaire et de dissiper l'inquiétude qu'elle peut causer à sa majesté. » Le grand vizir, ayant obtenu du roi la permission qu'il demandait, alla trouver la reine. Et, après s'être assuré par les questions qu'il lui fit et par ses réponses qu'elle n'avait aucune intelligence avec le jeune homme, elle lui tint ce discours. « Quelle que soit votre innocence, madame, le roi a des soupçons qu'il vous importe de dissiper. Voici le moyen de le faire et de vous justifier entièrement à ses yeux. Lorsque vous paraîtrez devant le roi, dites-lui que ce jeune homme, vous ayant aperçu un jour par hasard, vous a fait peu après remettre une lettre dans laquelle il vous proposait de vous faire présent de diamants d'un prix inestimable si vous vouliez consentir à ses désirs, que vous avez rejeté ses offres avec indignation et que vous avez appelé pour faire arrêter son envoyé qui a pris aussitôt la fuite, que non content de cette première tentative, le jeune homme vous a fait dire encore que si vous ne vouliez pas vous rendre à ses desseins, il s'introduirait un jour dans votre appartement, que le roi le verrait et le ferait périr, mais que par là, il noircirait votre réputation, irriterait le roi contre vous et vous ferait perdre ses bonnes grâces. Voilà, madame, ce que vous devez dire au roi. Je vais le trouver pour lui rendre compte de ma démarche auprès de vous et lui faire de votre part cette déclaration en attendant que vous puissiez la lui faire vous-même. » La reine se laissa persuader et promit de répéter au roi ce que le vizir allait lui dire. Celui-ci se rendit aussitôt près du sultan et, après lui avoir certifié que la reine était innocente, et lui avoir fait part de la prétendue déclaration, il ajouta « Le crime de ce jeune homme mérite la plus grande punition. Les bontés dont vous l'avez comblé le rendent encore plus coupable, et cet exemple prouve bien que la nature ne peut changer et qu'une graine amère ne peut produire que des fruits amers. » Le roi, ayant entendu le discours de son grand vizir, déchira ses habits, commanda qu'on amenât devant lui le jeune homme et qu'on fît venir en même temps l'exécuteur. La nouvelle de l'aventure du jeune intendant s'était déjà répandue parmi le peuple. Une multitude immense était rassemblée pour le voir et être témoin de ce qui allait lui arriver. « Ingrat ! » s'écria le roi dès qu'il l'aperçut. « Je t'avais confié l'intendance de toutes mes richesses et tu avais jusqu'ici bien répondu à ma confiance. Je t'avais élevé au-dessus de tous les grands qui m'entourent. Pourquoi as-tu voulu attenter à mon honneur et es-tu entré dans l'appartement de la reine ? Comment le souvenir des bienfaits dont je t'ai comblé ne t'a-t-il pas retenu ?»
Le jeune homme, sans paraître effrayé de la colère du roi et des apprêts du supplice qu'il semblait ne pouvoir éviter, répondit avec tranquillité. « Sire, je n'ai pas commis volontairement et de propos délibérés l'action qui me fait paraître criminelle. Je n'avais aucune raison de m'introduire dans cet appartement. Mais j'y ai été poussé par mon malheureux sort. Jusqu'ici, j'ai tâché de me garantir de toute faute et de me préserver de tout accident. Mais personne ne peut surmonter son destin, et tous les efforts sont inutiles contre la mauvaise fortune. C'est ce que prouve évidemment l'exemple de ce marchand qui devait être un jour malheureux et dont les peines et les travaux ne purent jamais faire changer la destinée.
« Quelle est cette histoire ? » dit le roi Zabar. « Et comment ce marchand devint-il malheureux pour toujours ? »